Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur les ondes FM en 107.5, mais également en podcast aussi sur le site internet www.rdwa.fr. Je suis dans l'atelier de Giordina De Castro. Bonjour.
Bonjour.
Giordina, vous êtes marionnettiste, c'est-à-dire que vous fabriquez des marionnettes. Pour ça, nous sommes dans votre atelier, donc au milieu de plein de personnages suspendus ou dessinés sur des planches ou même en train d'être construits ou élaborés. Cette passion pour la marionnette vous a pris très très tôt?
Alors, j'ai commencé avec la marionnette par cas. J'ai rencontré des gens à Barcelone qui faisaient des marionnettes. Et comme ça, j'ai commencé dans une compagnie à Barcelone pendant 3 ans. Et après, avec le père de mes filles, on s'est installé en Italie et on a recommencé avec le monde des marionnettes. On a recommencé en travaillant la tradition napolitaine de les guardatelles. Et on a fait notre parcours. J'ai fait des marionnettes pendant 40 ans, presque. Voilà.
Et par quelle occasion ça vous est venu c'est la rencontre d'artistes ou de spectacles?
Oui, et tout à fait la rencontre d'artistes. Et c'était vraiment des artistes qui faisaient de la marionnette, mais qui étaient hébergés dans cette maison qui était un atelier, et c'était aussi une maison qui accueillait des artistes et des passages et tout ça. C'est comme ça que j'ai connu la maison où il travaillait. Pepe Otal, c'était le fondateur du groupe Taller de Marionnettes de Barcelone. Et c'est là que je suis restée pendant 3 ans et j'ai découvert, je ne connaissais pas du tout la marionnette quand je suis arrivée. J'ai découvert ce monde magique et ça m'a pris beaucoup.
Alors, les marionnettes que vous confectionnez en général sont toutes de la même manipulation ou vous adaptez aussi en fonction des demandes? D'ailleurs, je vous poserai la question plus tard, mais est-ce que vous produisez des marionnettes pour des artistes ou de scène?
Non, on n'a jamais... Bon, d'abord, j'ai toujours travaillé avec mon compagnon de vie et du travail. Et on a toujours, sauf au tout début, quand on s'est installé en Italie, qu'on avait besoin d'argent tout de suite, alors on a fabriqué des marionnettes qu'on vendait pour une période jusqu'à ce qu'on a eu un spectacle. Après, on n'a jamais construit des marionnettes pour des autres. C'était que pour nous. Et en ce moment, je ne fais pas beaucoup. J'ai fait que des marionnettes un peu pour le plaisir en ce moment. Et c'est pour moi.
D'ailleurs, tout récemment, vous exposiez vos créations au Café Théâtre Andarta. Malheureusement, le confinement de nouveau est venu interrompre ce passage. Qu'en est-il là aujourd'hui?
Alors, les marionnettes sont toujours là, mais ces jours-là... peut-être même cet après-midi ou demain, j'ai commencé à retirer les marionnettes parce qu'ils vont faire une autre exposition. Et voilà, quand même, j'étais contente que pendant le confinement, ils ont été bien accueillis, ils sont restés là. Et maintenant, je dois arriver à les mettre là-dedans. C'est un peu petit ici. En fait, je ne construis pas des marionnettes pour les vendre. Même les marionnettes exposées sont des marionnettes qui ont participé à des spectacles de notre compagnie, Théâtre Allegre. Mais j'ai construit, en principe, je ne construis pas des marionnettes pour la vente.
Uniquement par passion?
Par passion et pour la création des spectacles. Maintenant, moi, tout seul, de faire des spectacles, je n'ai jamais fait tout seul. Ce n'est pas mon but. J'aimerais bien plutôt de faire des ateliers, faire découvrir un peu le monde des marionnettes, et surtout dans les Diwa que je ne vois pas, ils ne sont pas très connus.
Alors, il y a divers types, je reviens, hein, il y a divers types de marionnettes. Celles que vous produisez, on peut les appeler de quel style?
Alors, nous, on a fait beaucoup de techniques différentes, des marionnettes à gants, à marionnettes à fil, des marionnettes de table qui sont inspirées au bunraku japonais. Et le monde de la marionnette, il est tellement riche. Théâtre d'ombre aussi, théâtre de jet. On n'a pas été spécialisé dans une technique seulement. Les deux spectacles qui ont tourné plus dans toute l'Europe, c'était des marionnettes sur la table qui n'avaient pas de mots. Les spectacles, c'était seulement de la musique et des mouvements. Et la marionnette à gants inspirée à la tradition napolitaine. Voilà. Ça, c'est les deux spectacles qui ont tourné plus en Europe aussi parce qu'il n'y avait pas de mots. C'était facile de passer les messages et tout, sans les paroles.
D'ailleurs, vous parlez de l'Europe. Vous avez bougé un peu à travers l'Europe et essayé de découvrir un peu les cultures de marionnettes dans certains pays.
Ah oui, tout à fait. On a participé à beaucoup de festivals et chaque festival, comme vous savez, c'est la rencontre de beaucoup de compagnies qui arrivent de tout le monde. Et on a été à un festival en Grèce, en Pologne, en République tchèque. Ça nous a enrichi et ça nous a donné aussi envie de créer un festival international dans notre ville. Et on a fait 25 éditions. Annuellement, on faisait un festival international de marionnettes qui durait même 8 jours. C'était assez important.
Et l'univers de la marionnette est très très vaste, hein. Ça va du très bas âge, mais ça peut aussi concerner simplement des adultes également.
Ah oui, tout à fait. Il y a beaucoup de marionnettes pour adultes aussi. C'est très très intéressant. C'est vraiment un monde énorme, voilà. C'est vraiment un monde à découvrir parce que ça va des enfants aux jeunes, aux adultes. C'est une façon d'exprimer que ce n'est pas avec le travail d'acteurs, mais c'est à travers le travail des acteurs qui sont les marionnettes, ou qui sont des objets, ou qui sont des autres choses, que pas l'acteur humain. Voilà.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans une marionnette, son aspect, certes, mais aussi son allure?
Bah, surtout une marionnette, elle doit être expressive. Et moi, j'aime beaucoup manipuler, ça c'était ma passion. Et les mouvements, la vie qu'elle peut exprimer, voilà, elle doit être vivante. On doit être capturé pour la magie de la vie qui se passe. Des matières, que ça peut être les bois ou n'importe quelle matière, et elle devient vivante. Et ça, c'est une chose importante.
D'ailleurs, est-ce qu'il y a des spectacles de marionnettes qui vous ont marqué réellement à travers ces voyages ou un univers qui vous a beaucoup plu?
Ah ben là, je saurais pas vous dire, parce qu'il y a tellement de choses que j'ai vues et qui m'ont marqué beaucoup, beaucoup. Hein. C'est vraiment des moments de magie que tu viens transporter. Il n'y a plus la gravité des choses, il est vraiment. Bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, je saurais pas vous dire.
Quand vous créez un personnage, une marionnette, qu'est-ce qui vous inspire en premier lieu? C'est de créer un être complètement à part ou alors vous vous inspirez d'une certaine école de la marionnette?
Non, je ne m'inspire pas en école. Par exemple, je peux Je peux vous dire, les dernières marionnettes que j'ai faites, je ne savais même pas ce que je voulais faire. J'ai laissé que mes mains et la matière que j'étais en train de travailler s'exprimaient tout seuls. Alors, je ne savais pas, par exemple, ça, qu'il allait finir pour être un clan. J'ai commencé et après, quand j'ai commencé même à aller peindre, j'ai dit, ah, mais lui, c'est un peu comme si il venait tout seul, les personnages. La même chose avec celui-là, qui après c'est devenu le cordonnier. Mais je ne l'ai pas pensé au début. Alors, moi, j'aime bien aussi quand je dessine, de ne pas avoir trop de pensées dans la tête et voir qu'est-ce que ça sort. Voilà. Après, une autre chose, c'est je pense à faire une histoire, alors j'ai vraiment besoin de personnages spécifiques. Mais j'aime beaucoup l'improvisation et ce qui va arriver sans les commander.
Vous êtes installé à Adi depuis quelques années, hein. On va peut-être pas préciser depuis quand.
Depuis 2 ans. 2 ans.
Qu'est-ce qui vous a amené à être sur Adi? Pour vous, c'est un cadre, comment dire, serein pour justement créer des marionnettes?
Alors, Di et les Diwa, je l'ai connu, ça fait 40 ans. Voilà, j'ai passé un hiver à Lucaniwa. Et moi, j'ai toujours aimé cet endroit. Après l'histoire de la vie, j'ai rencontré. C'est une histoire d'amour. On avait laissé l'histoire d'amour, ça fait 40 ans, et après, on s'est rencontrés de nouveau et j'étais bien heureuse de tourner dans cet endroit que je trouvais merveilleux. Voilà. Tranquille avec la dimension que j'aime bien. Pas trop petit, pas trop gros. Pouvoir arriver en vélo. Enfin, j'aime bien la dimension des dits et leur merveille qui l'entoure.
Quels sont les par rapport aux marionnettes, il y a certes le personnage, mais il y a aussi un décor. Est-ce que vous envisagez le décor aussi comme un moyen d'expression et à laquelle vous vous attelez au sein d'un castelet, par exemple?
Ah oui, tout à fait. Les histoires sont tous ensemble, les personnages et les décors. Alors, moi, dans la compagnie, c'était pas moi qui pensais, qui était le régisseur. C'était pas moi la pensée du spectacle, de l'histoire, c'était mon copain. Moi, j'étais plutôt la personne qui savait bien comprendre ce qu'il voulait faire. Et que je crois que j'ai bien réussi à transporter avec la manipulation et tout ensemble l'esprit et les thèmes qu'ils voulaient, les régisseurs, ils voulaient mettre en scène. Mais moi, personnellement, c'était pas moi à inventer même les décors ou les personnages. J'ai fait aussi les costumes et j'ai fait des choses, mais c'était plutôt Damiano qui était le régisseur de la compagnie. Ma passion, ça a été toujours la manipulation. Et bon, et aussi le costume et tout ça.
Il y a le costume, et puis parfois il peut y avoir un comédien derrière un masque, qui peut être une marionnette.
Ah, le comédien derrière un masque, moi aussi, pendant un spectacle, j'étais vraiment un comédien derrière un masque. Mais ce n'était pas une marionnette, c'est toujours un comédien derrière un masque, c'est toujours un comédien, c'est une personne humaine. En même temps, on a toujours tenu beaucoup à différencier aussi les marionnettes, il faut les laisser leur espace. Hein. Et leur espace à elles, ça veut dire faire attention à que notre travail d'acteur, que ça peut être aussi dans le monde de la marionnette, n'écrase les personnalités des marionnettes. Parce que nous, comme acteurs, on peut être beaucoup plus puissantes des marionnettes. Il faut les laisser l'espace. Hein? Et voilà. On a beaucoup travaillé pour ça. On a vu beaucoup aussi dans les festivals de ces spectacles où l'acteur, il voulait trop se mettre à montrer.
Oui, se montrer.
Trop se montrer et la marionnette, alors, on ne la voyait plus. Et on disait, ça ne vaut pas la peine d'avoir une marionnette en scène. C'était trop en exposition, non? Voilà.
Je pensais à des spectacles que j'avais vus de marionnettistes et qui se mettaient justement eux-mêmes en tant que marionnettes avec des masques et puis d'agir comme une marionnette dans les mouvements. Ça s'appelait l'opéra baroque. C'était les frères Forman.
Ah oui, je connais.
Oui. Oh. Et donc, je voulais savoir, c'était dans ce contexte, est-ce que le comédien peut aussi devenir un personnage, une marionnette lui-même?
Ben, c'est lui, il fait des mouvements qui imitent la marionnette et il peut devenir une marionnette. Oui, ça c'est vrai. Et en ce moment, ça me vient à la tête une chose importante. Dans les théâtres japonais traditionnels, ils ont commencé pour faire les théâtres pour les marionnettes. Ils écrivaient des grandes œuvres, autant de Shakespeare et tout ça, ils écrivaient pour la marionnette. Et après, ils ont commencé à faire les théâtres d'acteurs, et les acteurs, ils bougeaient comme les marionnettes. Hein? C'était les bunraku qui, après, ils passaient à les théâtres je ne me rappelle plus, kabiku, ou kabuki. Et les acteurs, ils bougeaient même comme les marionnettes. C'est très intéressant. Et pourquoi ils ont commencé avec les théâtres des marionnettes? Parce qu'ils avaient, ils étaient convaincus qu'une marionnette, en n'ayant pas l'âme, ils pouvaient recevoir plus facilement les caractères et l'âme du personnage. C'était pour ça qu'ils ont commencé avec le burraco. Et voilà, ça c'est un exemple de comment après. Les acteurs, ils bougeaient comme des marionnettes.
Vous citiez justement des spectacles créés particulièrement pour des marionnettes. Le Père Ubu, par exemple, vous connaissez, je suppose, d'Alfred Jarry.
Et Ubu?
Ubu.
Oui, j'ai vu un spectacle d'une compagnie française au Festival mondial de Charleville. Oui, mais je n'ai pas beaucoup étudié les... J'ai vu un spectacle qui était très très fort sur ces personnages.
Vos personnages et vos marionnettes sont d'une facture plutôt classique, hein, je dirais. Est-ce que, par contre, vous laissez libre cours à plus d'imagination et d'être peut-être même à contre-courant de ce que pourrait être une marionnette dans ses caractéristiques dites classiques?
Oui. Alors là, au Café Andarta aussi, j'ai exposé des marionnettes, c'est une petite partie. Il y a des marionnettes grandes qui sont très classiques parce qu'elles ont été faites pour une opéra classique. On a fait le spectacle avec l'orchestre en vivant et c'était une opéra classique. Après, à Pinerolo, dans la ville où j'habitais, ils sont restés là. Tous les autres marionnettes, où il y a aussi beaucoup de recherches. Oui, beaucoup de recherches d'une autre façon de faire et de construire marionnettes et de s'exprimer. Oui. Il est toujours en mouvement, le théâtre des marionnettes. Il s'arrête. Au moins, nous, on ne s'est jamais arrêté. On a commencé dans la tradition parce que ça nous semblait le mieux. Commencer par la base pour après aller ailleurs. Voilà.
Quand vous créez un personnage, vous commencez certainement par la tête, le visage. Comment s'élabore ce processus? Est-ce que vous dessinez d'abord? Ensuite, une fois que vous avez un personnage, il faut le mettre en trois dimensions. Et donc là, je vois, vous avez un petit coin qui permettrait peut-être de sculpter les têtes. À l'aide d'un miroir aussi, ça aide aussi pour une certaine symétrie du personnage ou pas?
Non, les miroirs, c'est plutôt pour les mouvements. Pour les mouvements, ça aide beaucoup à avoir un miroir. Sinon, j'aime bien commencer par la tête, oui. Et non, je dessine pas parce que je ne suis pas très, très bon à dessiner. Mais j'aime bien aussi travailler avec l'argile et voir qu'est-ce que ça arrive, non? Et après faire les moules, et comme ça on faisait au début les têtes de marionnettes avec les moules et la pâte de bois et tout ça. Là, les derniers que j'ai fait, j'ai essayé une autre technique parce que je voulais faire quelque chose de plus facile pour le pouvoir faire avec les enfants. Et j'ai commencé avec la boule de polystyrène et après j'ai ajouté des cotons, de la colle, des papiers. Et après, c'est devenu comme ça. Voilà.
Une marionnette obéit aux lois de l'attraction, c'est-à-dire que si vous la lâchez, elle tombe. Qu'est-ce que c'est pour vous, justement, de manipuler une marionnette? C'est un savoir-faire qui s'acquiert avec beaucoup d'années.
Alors, ça dépend, oui, ça dépend. Par exemple, nous, on a fait des marionnettes qui étaient inspirées au bunraku japonais, qui on devait être deux personnes pour manipuler un personnage. Alors là, il a fallu vraiment des mois et mois de répétitions, de mouvements, parce qu'on devait être coordonnés complètement. Hein? Il y a une qui bougeait les jambes, et l'autre la tête et les mains, avec tout ce qui comporte la difficulté que ça soit un mouvement humain. Voilà. Je ne me rappelle plus la demande.
C'était par rapport à l'attraction terrestre, donc qu'une marionnette lâchée tombe. En fait, le rôle du marionnettiste, c'est de la relever et puis de lui donner vie. Oui. Et ça, je vous demandais si ça prenait beaucoup d'années.
Ah oui, oui, oui. Ça, oui. Alors, pour le faire bien, sûrement, il faut beaucoup d'années pour... comme pour n'importe quel métier, n'importe quelle chose. Mais c'est vrai que parfois aussi la marionnette avait beaucoup, très peu de mouvements. Tu vois déjà qu'il a pris la vie. Après, faire les choses bien, il faut pratiquer et il faut du temps. Il faut du temps et de la pratique. Mais la marionnette, c'est quelque chose qui vraiment, on l'apprend et... avec peu de choses, on peut voir qu'elle est vivante. Voilà.
Une marionnette, en quelque sorte, elle est aussi suspendue en l'air. Est-ce qu'il y a des limites pour une marionnette à s'élever?
Ah non, des limites pour la marionnette, il n'y en a pas. Heureusement, il n'y en a pas. C'est ça qui la rend belle et magique. Il n'y a pas de limite.
Et c'est là aussi où il y a tout un art aussi pour faire passer cet aspect de la marionnette dans quelque chose d'irréel.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est là que c'est très important. L'atelier, c'est un lieu de recherche. De recherche, tu ne sais pas qu'est-ce que ça va devenir. Tu recherches, tu pousses pour voir. Où est-ce qu'on peut arriver?
Vous parlez d'atelier ici, donc avec toutes ces planches, c'est des planches que vous trouvez, que vous avez découvertes lors de recherches?
C'est là?
Oui.
C'est là et c'était dans le groupe Tailleur de marionnettes de la compagnie de Barcelone. Et j'avais pris les photocopies et j'ai refait les photocopies plus grandes. Alors ça, c'est des planches qui ont plus de 40 ans, voilà. Oui, et où il y a toutes les techniques possibles. Comme vous voyez, là, il y a les bunraku japonais, comment faire une tête, comment avec le jeu qui bouge, avec la bouche.
Les jeux d'articulation aussi.
Ouais.
Et puis, en parlant d'atelier, est-ce que vous arrivez peut-être aussi à initier une transmission de votre savoir-faire par des ateliers avec des adultes ou des enfants?
Alors oui, j'avais un projet pour commencer ça, et un projet pilote dans une école, Mais c'était juste le 22 mars, on n'a pas pu le faire et c'est tout arrêté avec les problèmes du Covid. En ce moment, c'est tout arrêté. On verra bien avec le temps.
D'ailleurs, pour cette période de Covid, ça a été dur pour vous ou alors vous avez pu continuer à travailler dans votre atelier, mais sans vraiment partager aussi vos créations. Ça, c'est ça vous comment dire, ça vous frustre quelque part?
Ah, tout de suite, ça a été un coup un peu dur parce que j'étais juste lancée parce que je devais commencer une chose importante. On devait filmer ça, on devait documenter ça pour relancer dans les autres écoles. Et ça s'est arrêté tout d'un coup. J'étais un peu frustrée, oui. Après, bon, il faut prendre les choses comme elles arrivent, c'est la vie. Alors, je me suis engagée un peu plus sous l'apprentissage des langues. Je donne des cours d'italien et espagnol. Et je veux dire que ça aussi, avec l'écho des langues, ça, heureusement, ça m'a vraiment donné beaucoup de motivation. J'ai des groupes très sympas. Parce que tout d'un coup, ne pas avoir rien à l'horizon, ça m'avait vraiment fait un peu du mal, oui.
Les marionnettes que vous produisez, il y en a de tailles différentes. Vous en faites des peut-être toutes petites, ça vous arrive. Et vous parliez tout à l'heure de personnages ou comme un comédien. Ça aussi, vous aviez travaillé sur cette taille. Quelle est la taille pour vous idéale d'une marionnette en niveau manipulation?
Ah là, alors les marionnettes trop trop grandes et trop trop lourdes parce que peut-être sont faites en bois, sont pas faites pour moi, c'est trop lourd et j'y arrive pas. Mais sinon, si je les préfère un peu plus légères, même si elles sont grandes, mais que je puisse les manipuler avec facilité. J'avais une toute petite, ça faisait 10 cm, dans un spectacle qui après tombait dans une boîte magique, elle devenait grande et elle était magnifique. Toute petite, elle faisait des mouvements très 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 très, très beaux. Et après des grosses marionnettes, on n'a jamais fait, à part deux personnages qui étaient très... Très bien, c'était des têtes qu'on mettait sous notre tête et après nos bras, c'était leurs bras, voilà. Et c'était vraiment la perception pour le public, c'était magnifique ça. C'était la mort et Pulcinella, deux personnages qui après, ils se promenaient au milieu des publics et tout ça.
Je reviens sur les frères Forman parce que je les avais vus à Valence en 2010-2011, par là, où il y avait une marionnette d'un cheval en grandeur nature. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Non.
Un des frères, était quasiment accroché avec des cordes pour le faire jouer, à le faire cabrer, à le faire ruer. Et en plus, il y avait une écuyère sur le cheval qui faisait des figures acrobatiques. Pour moi, c'est de la magie. C'est presque il y a quelque chose de l'ordre de la sorcellerie. Tellement c'est en plus réaliste. Est-ce que vous êtes dans une quête d'un monde surréel ou surnaturel aussi?
Ah, moi, j'adore ça, hein. J'adore ça. Je crois que c'est vraiment la chose plus belle du théâtre des marionnettes, qu'on arrive à transporter le public et nous-mêmes dans ce monde irréaliste comme ça. Je préfère ça aux marionnettes vraiment, par exemple les marionnettes hyper réalistes qui font toutes les choses, qui font les humains, ça je le trouve un peu bon. On ne peut pas enlever la valeur de faire des marionnettes comme ça. Hein. Il y a des compagnies qui ont fait des merveilles. Mais la chose qui me plaît plus, que je trouve plus intéressante, c'est transporter dans l'irréel.
La musique aussi a une place hein, dans ce que vous faites.
Absolument.
Et quelle est cette musique dans laquelle baignent vos marionnettes?
Absolument. Nous, on a travaillé beaucoup, beaucoup avec la musique. Alors, d'abord, le spectacle que j'ai parlé tout à l'heure, qui n'avait pas de paroles, c'était que de la musique et des bruits. Et il y avait des histoires. Et les gens, soit en Grèce, soit en Pologne, ils comprenaient la même chose. Ça, c'était super beau. Ils comprenaient l'histoire, la même histoire, qu'à travers la musique. O sea, la musique, elle a une force d'expression qui aide au mouvement, qui ensemble au mouvement fait tout. Voilà. Après, on a travaillé aussi vraiment dans des œuvres musicales comme Pierre et les loups. On a fait Pierre et les loups, ça s'appelait quand même, on l'appelait Prokofiev et les loups. Il y avait tout un rapport avec les moments historiques où Prokofiev il a créé l'œuvre. Alors, les loups, un peu, c'était Staline. Et après, nous, manipulateurs, on était habillés comme les prisonniers des goulags. Il y avait tout un rapport avec ça. C'était super. Et après, la dernière, ça a été l'histoire d'un soldat, de Stravinsky. O sea, pour nous, la musique, elle a été toujours très importante. O sea, beaucoup plus que la récitation. Voilà. Beaucoup plus.
La marionnette peut s'exprimer aussi. Elle peut exprimer des idées, des opinions. Est-ce que vous voyez la marionnette comme vecteur de paroles ou d'idées politiques parfois? Est-ce que vous pensez que ce soit possible? Ou alors dans quel domaine la marionnette se destine-t-elle?
Ah oui, tout à fait, la marionnette, ça a commencé comme ça. L'histoire de la marionnette ou l'histoire de la marionnette à gants de Pulcinella qui est partie après en tournée pour toute l'Europe en 1600. Hein. C'était comme ça les compagnies de marionnettes. Il racontait des choses qu'on ne pouvait pas dire parce qu'il y avait la censure, non? On était censurés. Mais les marionnettes, ils pouvaient un peu parce que c'était la marionnette qui parlait. Et alors, ils racontaient tout ce qui s'était passé dans l'autre village. Ça a été toujours un peu l'histoire fondamentale de la marionnette. Après, nous, on n'a pas fait tellement... dans notre spectacle, il n'y avait pas tellement un fond de politique, par exemple, non. Plutôt émotionnel, voilà. Émotionnel, ou par exemple, avec Prokofiev et Lou, on a raconté un peu ce qui s'est passé avec Staline et ce qu'il a vécu aussi, le compositeur Prokofiev, parce que sa femme, elle a été au goulag et tout ça. Mais pas spécialement, c'était un peu plus subtil, non? On passait des messages, mais obviously, tous quand on fait du théâtre, ou du théâtre de marionnettes, on veut passer notre principe de vie, non? Et notre émotion, ce qui nous semble intéressant de passer.
Quand vous construisez un personnage... À quel moment il vous touche et à quel moment est-il terminé et qu'est-ce que ça provoque en vous?
Alors, comme je vous disais, je n'ai pas été très constructrice dans les années où j'étais marionnettiste dans la compagnie Théâtre Allègre. Ce n'était pas moi la constructrice. Maintenant, j'ai trouvé le plaisir de faire et je ne sais pas, toutes les fois, quand est-ce qu'elle va me surprendre. Et les dernières, ils m'ont surpris quand j'ai commencé à les peindre. Parce que là, ils m'ont donné leur expression. Mais c'est vraiment un peu comme... C'est pas moi qui donne l'expression, mais c'est les pinceaux qui font pour moi. Et ça, je l'ai trouvé... Ça me plaît beaucoup. C'est pas moi qui force, mais c'est tout seul qui arrive. Je pense que je vais continuer comme ça, à voir ce que peut arriver.
Et vous en riez parfois?
Comment?
Vous en riez parfois?
Okay.
Rire.
Ah oui.
Est-ce que certains personnages vous font rire? Est-ce que c'est ça qui fait que la marionnette existe?
Ah, je vous disais que c'est pour ça qu'on a l'affiche de Pinocchio et aussi l'affiche de Black Ball, parce que c'est avec Mimi, qui c'était de la compagnie Black Ball, que Philippe Alvéola il a commencé aussi à faire des clowns dans les années 80. Il y a un cordonnier qui a fait les clowns aussi. Et malheureusement, je ne l'ai jamais vu jouer. C'est dommage.
C'est peut-être pas trop tard, hein. Il est encore jeune.
Ouais. On sait jamais, oui.
Votre atelier, par exemple, est-ce que vous l'ouvrez au public par temps normal, à le visiter
Ah oui, je suis disponible quand. Et parfois, avant le confinement, il y a beaucoup de monde qui est passé pour voir les marionnettes et je suis très contente d'accueillir quelqu'un qui est intéressé, mais même à construire quelque chose. Et même l'atelier, c'est un peu. Ça devait être un lieu ouvert et si quelqu'un il veut faire des choses. Maintenant, on laisse passer encore ce moment difficile et après, ça sera plus facile aussi. J'espère que vous avez vu l'exposition d'Anarta et sinon, jusqu'à demain après-demain, il sera là. Mais je pourrais vous dire ça cet après-midi. Je vais parler avec Valentina de Café Andata, si on peut les laisser jusqu'à jeudi, et comme ça jeudi soir, comme ça les gens qui écoutent ça, ils peuvent encore faire un tour pour les visiter.
Eh bien, Géordina, je vous remercie de nous avoir donné un peu de votre temps, hein, pour.
Et merci à vous, ça a été un plaisir, et j'espère de pouvoir. Avec vous, avec tout le monde, découvrir un peu ce monde spécial. Merci.
Bonne soirée.
Bonne soirée.